Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, bienvenue à tous. Voici le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris, où nous retrouvons Francis Laloupo. Bonjour Francis.
Bonjour Liliane Niacha, merci d'être là. Merci aux auditeurs et aux auditrices de leur fidélité.
Il fait beau temps à Paris, il me semble.
Plutôt. On a un été qui se prolonge et on s'en réjouit, bien sûr.
Et vous en profitez. Bienvenue une fois de plus, lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Le gouvernement a-t-il perdu la main? Fin août, 7 membres des forces de sécurité intérieure ont trouvé la mort lors de l'attaque d'une brigade de gendarmerie dans l'est du pays. Les autorités tentent de rassurer sur leur capacité à ramener la sécurité, mais la société civile et une partie des populations se montrent sceptiques dans un contexte où certains proches du pouvoir disent douter de la nature terroriste de ces attentats. Au Bénin, désormais, faut-il être millionnaire, voire milliardaire pour prétendre à la magistrature suprême? Le nouveau code électoral fixe à 250 millions de Français CFA le montant de la caution pour être candidat à la présidentielle contre 15 millions de Français CFA. Jusque-là, certains accusent le pouvoir actuel de vouloir réserver cette fonction aux riches, alors que d'autres saluent une mesure qui devrait permettre de réduire les risques de candidature fantaisiste. Le nouveau code électoral béninois est-il dangereux ou plutôt avantageux? Avantageux pour la démocratie. Débat à suivre. Autre sujet, lui aussi politique et non moins controversé, c'est le Gabon, où la Cour constitutionnelle a décidé de faire payer les procédures en matière électorale. Ils étaient jusque-là gratuits. 5 millions de francs CFA pour la présidentielle et 500 000 francs CFA pour les législatives et les locales. L'opposition conteste cette mesure. Est-elle motivée par les difficultés financières auxquelles le Gabon est confronté ou vise-t-elle simplement à réduire le volume de requêtes auprès de la Cour constitutionnelle? Le débat, c'est tout à l'heure. Le temps pour vous, Francis, de présenter le plateau.
Oui, Liliane, notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Ouagadougou, au Burkina Faso, Jean-Pierre Bayala, magistrat colonel à la retraite. Jean-Pierre Bayala, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Notre confrère invité dans cette édition, il est au téléphone, lui, depuis Cotonou, Gédéon Vegba, journaliste et analyste politique à l'ORTB. C'est l'Office de radio et télévision du Bénin. Gédéon Vegba, bonjour.
Bonjour Francis.
Merci d'être là. Petite fiche de présentation de notre grand témoin Jean-Pierre Bayala. Alors Jean-Pierre Bayala, votre biographie est particulièrement dense et on a essayé d'en faire une synthèse forcément incomplète. Vous êtes né en décembre, le 31 décembre exactement, 1944, à Réau, dans le centre ouest de Burkina Faso. Vous avez obtenu un nombre impressionnant de diplômes universitaires, notamment une maîtrise en droit et sciences politiques, un DEA de droit et sciences politiques. Vous êtes par ailleurs certifié en criminologie et aussi en droit humanitaire et en droit international. Et entre autres qualifications, certifications, on peut noter un certificat en lutte antiterroriste, prise d'otages, escorte et sécurité des hautes personnalités. Un brevet de l'École nationale d'administration et de magistrature, section magistrature. Ancien officier de la gendarmerie, vous êtes depuis 2009 consultant indépendant en réforme des systèmes de sécurité. Plusieurs décorations et distinctions à votre actif. On notera celle de grand officier à la dignité de l'ordre national que vous avez obtenue en 2016, médaille commémorative Monuc en 2006, officier de l'ordre national en 1998. Notons avec un sourire que vous avez obtenu en 1972 une médaille olympique d'athlétisme, de lancer de poids précisément. Jean-Pierre Bayala, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. À vous Dakar, à vous Liliane.
Merci, on va commencer avec le Burkina Faso. Comment venir à bout des attaques meurtrières qui se multiplient dans ce pays d'Afrique de l'Ouest et endeuillent familles de civils et celles des forces de sécurité, d'abord le nord du pays, puis l'Est et le Sud-Ouest, en plus de la capitale Ouagadougou. Trois régions du Burkina Faso sur 13 sont touchées par des actes de violence devenus récurrents et certains se demandent si le pays retrouvera un jour la paix. Les autorités appellent les populations à coopérer et à soutenir les forces de sécurité manifestement débordées, mais néanmoins déterminées à vaincre le terrorisme, assure le gouvernement. Monsieur Jean-Pierre Bayala, le gouvernement rassure donc, mais le président par intérim du parti au pouvoir, le MPP, a récemment affirmé que les attaques ne sont peut-être plus terroristes, s'appuyant sur le fait qu'elles ne sont plus revendiquées. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette observation? Est-ce que vous partagez cette déclaration?
Ben, merci de m'avoir donné l'occasion de parler de la situation du terrorisme dans mon pays. Le Burkina, qui, comme j'ai l'habitude de le dire, est dans l'œil du cyclone depuis un certain moment, de mon point de vue, ne doit pas baisser les bras. Certes, le pays a été plus ou moins surpris. Disons que l'on n'a pas suivi la montée de l'environnement international, surtout en matière de terrorisme, pour comprendre que c'est un phénomène de transnational, même transfrontalier, si l'on peut ajouter, et qui naturellement nécessite beaucoup de précautions et de mesures. Dès l'instant où le terrorisme est apparu, surtout du côté du Mali, qui est un état voisin, fait frontière avec le Burkina sur plus de 1000 kilomètres, il fallait naturellement s'attendre à cette percée-là islamique, terroriste, je veux dire plutôt, et prendre les dispositions, car il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Mais l'effet de surprise étant, je crois qu'aujourd'hui, il est tout à fait indiqué qu'il y ait un sursaut au niveau des tenants du pouvoir. Parce que une guerre ne s'exerce pas dans un seul sens. Et la réaction du Burkina est tout à fait normale et tout à fait légitime. Et c'est dans ce sursaut d'orgueil-là, naturellement, que des mesures sont en train d'être prises.
Oui, Monsieur Bayala, ma question était celle de savoir que pensez-vous des affirmations faites par le président par intérim du parti au pouvoir, parce qu'il dit que les attaques ne sont plus terroristes au Burkina Faso. Que vous inspire cette déclaration? Et est-ce que c'est la conclusion à laquelle vous-même vous êtes parvenu en analysant les dernières attaques dans votre pays?
Je pense que dans une donne en termes de guerre, il ne faut pas exclure l'action psychologique, la guerre psychologique, qui naturellement ne peut pas concevoir le défaitisme. Et c'est ça, il faut se donner du souffle, il faut se donner de l'énergie et ne jamais s'avouer vaincu. C'est comme en matière de sport. Avec cette donne que dans cet environnement-là, c'est des vies humaines, c'est un État qui se trouve déstabilisé. Maintenant, il faut dire que naturellement, on ne peut pas camper simplement sur le terrorisme. Parce que dans l'affirmation du responsable politique, il faut prendre la dimension nationale et internationale même de la question. Et au plan national, vous savez que le Burkina a traversé une période de révolution. Donc avec une déstructuration totale du système de défense et de sécurité. Ensuite, le Burkina a connu une insurrection. Et tous ces éléments font que, au niveau même des forces de défense, il est difficile d'avoir la cohésion nécessaire, d'avoir le professionnalisme nécessaire lorsque le pays se trouve surpris dans une situation aussi fulgurante que ces attaques-là qui nous assaillent le pays de tous côtés.
Donc, merci beaucoup.
C'est tout à fait normal, vous comprenez, que on puisse pas se dire que, ils sont en train de nous assaillir de toutes parts et par conséquent, il faut s'asseoir, il faut les laisser faire. Donc, c'est une attitude, c'est une réaction humaine normale.
D'accord, merci. Francis ?
Oui, Jean-Pierre Bayala, le chef de l'État burkinabé, Christian Roch Kabore, disait récemment qu'on assistait au Burkina Faso à une opération de déstabilisation du pays. Vous avez d'ailleurs vous-même émis ce même avis dans une interview. Est-ce que les groupes djihadistes, selon vous, sont dans une logique d'occupation de l'ensemble du territoire du Burkina Faso actuellement?
Ben, il faut vous dire que si l'on prend toute la donne du phénomène qui se manifeste au Burkina, nous savons qu'il y a un socle terroriste. Il y a également un socle politique. Donc, dès cet instant-là, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas s'enfermer dans une logique essentiellement confessionnelle, essentiellement doctrinale. Mmh. Parce que l'une des causes premières du terrorisme, c'est d'abord la question de pauvreté. Mmh. C'est la question de la gouvernance. Il ne faut pas oublier que le terrorisme, il y a le terrorisme individuel, mais il y a aussi le terrorisme d'État que les États n'acceptent pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs la définition du terrorisme demeure très contestée.
Mmh. Mmh. Alors, Jean-Pierre Bayala, vous savez, en 2012, quand les djihadistes avaient occupé le nord du Mali, on disait que tout cela était possible parce que le Mali était devenu un maillon faible dans la sous-région. Et aujourd'hui, au fond, c'est ce qu'on dit également à propos du Burkina Faso. On dit que le Burkina Faso est un maillon faible. Ça fait quand même deux maillons faibles dans la sous-région. Et au Mali, à l'époque, on disait qu'il y avait une crise au sommet de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, le terrorisme prospère dans votre pays sur la faiblesse de l'État burkinabé?
Si vous appréhendez un peu la situation politique aujourd'hui au Burkina, vous comprendrez que la cohésion sociale n'est pas la mieux partagée dans une situation de guerre avérée. Aujourd'hui, le terrorisme tel qu'il se présente et de façon globale, il faut dire que le combat doit être l'affaire de tout Burkinabé, de tout national, de tout patriote. Mmh. Pourquoi? Parce que le terrorisme ne fait pas de choix. Ces attaques sont indiscriminées. Donc que l'on soit du parti au pouvoir, que l'on soit de l'opposition, que l'on soit musulman, chrétien et j'en passe, le terrorisme ne choisit pas. C'est des attaques indiscriminées. Donc, dès cet instant-là, il faut absolument que tout le monde se mette en ordre de combat.
Quand vous dites tout le monde, y compris la population.
Ben, et surtout la population, parce que la notion de sécurité englobe tout citoyen dans un État. Parce que la sécurité, pour être collective, pour être efficace, doit être d'abord individuel.
Vous insistez beaucoup sur le renseignement, sur le renforcement du renseignement national. Vous dites d'ailleurs que le Burkina n'a pas aujourd'hui les moyens opérationnels, technologiques suffisants pour mettre en place un service de renseignement efficace et pertinent. Est-ce qu'il faut mettre dans ce cas-là à contribution toute la population pour affiner le renseignement dans votre pays?
Ben absolument. Lorsqu'on ne dispose pas des moyens technologiques aujourd'hui, prenez l'État d'Israël. L'État d'Israël, à tout moment, est capable de savoir quel pays, quel voisin essaie d'entreprendre des actions sur le plan sécuritaire. Et ça, c'est la technologie. Mais pour les États africains, pour des États pauvres comme le Burkina, il faut naturellement le concours de chacun. Qu'aujourd'hui, moi, j'héberge un étranger, que je sache qui il est, que mes voisins sachent qui il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est tous ces éléments-là, parce que nous savons que ça soit à l'est du pays qui vient d'être attaqué, région dans laquelle aujourd'hui on ne passe pas trois jours sans attaque, mais il est évident que les populations perçoivent des individus mais ne s'intéressent pas à leurs déplacements, ne s'intéressent pas à leurs origines. Et cela est justement dommageable pour nos populations.
Monsieur Bayala, je parlais tout à l'heure des déclarations du président du MPP, mais avant cela, il y a eu des accusations de la part d'une partie de la société civile qui estime que le gouvernement n'est plus en mesure de ramener la sécurité, que le gouvernement est en quelque sorte dépassé par la situation. Et quand on ajoute à cela les déclarations du président par intérim du MPP, le parti au pouvoir dont je viens de parler, est-ce que cela ne peut pas traduire une perte de contrôle de la situation? Est-ce que le gouvernement n'a pas vraiment perdu la main dans cette lutte contre le terrorisme?
Perdre la main, une perte de contrôle, je ne serai pas très formel là-dessus.
Mais peut-être qu'il est quand même sur la défensive.
Mais le Burkina restera toujours sur la défensive, dans la mesure où l'effet de surprise l'a emporté sur l'expansion du phénomène. Il est évident que non seulement il faut rester sur la défensive, parce qu'il faut arriver justement à prévenir les attaques à venir pour justement reprendre conscience, pour permettre, pour obliger l'ennemi à se convaincre qu'il y a un éveil de confiance et donc de résistance au niveau du pays qui est attaqué.
Pour être précis, M. Bayala, vous êtes en train de dire à vos compatriotes burkinabés qui attendent une réponse du gouvernement que, à l'état actuel des choses, le gouvernement n'a pas d'autre moyen que d'attendre que les terroristes attaquent et qu'ils répondent ensuite.
Je sais que les propos qui étaient de nature à confirmer aux populations d'attendre, pour moi,
est-ce que
c'est
vous pouvez
pas
reprendre votre réponse, s'il vous plaît? On vous a perdu un moment. Alors,
allô?
Oui, reprenez vos propos, s'il vous plaît.
J'ai dit que attendre que les choses se mettent en place, telles que vous venez de le dire, en interprétant l'opinion des populations, je pense que ce n'est pas la solution. À mesure où je vous ai dit que la sécurité est globalisante, La sécurité doit concerner tous les citoyens dans un État. Donc, en attendant, le pouvoir en place est en train de se débattre justement pour endiguer le phénomène.
Pour quel résultat, M. Bayala ?
Quelle est la part réelle des populations ?
Oui, je l'ai dit en début d'émission, le gouvernement appelle les populations à coopérer, à donner toutes les informations aux forces de l'ordre pour combattre ce phénomène. Le gouvernement se débat, vous l'avez dit, mais pour quel résultat ? Le Nord, hier, ensuite l'Est et le Sud-Ouest. Plus le gouvernement dit combattre les terroristes, plus les violences gagnent de nouvelles localités. Comment convaincre aujourd'hui les Burkinabés de ce qu'ils luttent réellement contre ce terrorisme et que cela donne des résultats?
Vous savez, moi, en tant que technicien sécuritaire, je pense que d'abord, comme disait un président américain, il ne faut pas tout le temps demander à l'État qu'est-ce que l'État fait pour vous. Il faut se demander ce qu'on peut faire pour l'État. Or, actuellement, nous sommes dans une logique, nous sommes dans une position où chacun est concerné. Autant par ses propos, on donne les renseignements nécessaires aux terroristes pour agir, autant naturellement, ces propos sont de nature à démoraliser ceux qui combattent, ceux qui sont au front, comme s'il y avait un sentiment d'abandon. Alors que nous savons financièrement, économiquement, ce que représente le Burkina, parce que dans cette posture-là, il faut absolument des moyens. Et ces moyens, c'est des moyens financiers, c'est des moyens logistiques, parce que même s'il y a l'homme, parce que la guerre c'est d'abord l'homme, ce n'est pas les moyens. Il est même avéré que l'excès de moyens peut être une des causes d'une défaite en matière de guerre. Donc, ce que l'État, c'est pas pour défendre moi le pouvoir en place, c'est pour simplement vous dire que nous sommes tous prenants, nous sommes tous des combattants potentiels dans la situation actuelle du pays.
Merci
c'est comme une
beaucoup.
Case qui brûle, il n'y a pas que les sapeurs-pompiers qui vont le faire. Et au demeurant, la question militaire n'est pas la question première dans la résolution de ce genre de phénomène.
Merci, on va marquer une pause obligatoire.
Le débat, BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat, Liliane Niacha et Francis Laloupo.
en duplex à Dakar et Paris. Notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Ouagadougou, Jean-Pierre Bayala, magistrat colonel à la retraite. Notre confrère invité dans cette édition, au téléphone depuis Cotonou, Gédéon Vegba, journaliste et analyste politique à l'ORTB. C'est l'Office de radio et télévision du Bénin, vers qui nous allons nous tourner justement pour qu'il nous apporte sa contribution dans ce débat sur la question sécuritaire au Burkina Faso. Gédéon, quel regard vous portez sur cette situation ?
Merci Francis. Je pense que la géopolitique de la sous-région favorise la montée du terrorisme. Nous assistons là actuellement à une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, vous pouvez le comprendre, c'est une guerre qui oppose les forces armées d'un État à des combattants matériellement insignifiants et qui se servent des points faibles de l'adversaire pour parvenir à leur but politique ou religieux. Et Francis, vous l'aurez compris, dans cette situation, on ignore d'où viennent les attaques. En tant que tel, des hypothèses sont émises de part et d'autre. Dans le cas présent, on parle de Al-Qaïda au Maghreb, islamique, filiale locale, de la nébuleuse Al-Qaïda, etc., etc. Mais je pense que, pour être plus concret, le Burkina aujourd'hui a d'énormes difficultés. Des difficultés liées notamment à sa position géographique, comme je l'ai dit tantôt. Le Burkina partage aujourd'hui deux frontières immenses et difficilement contrôlables avec le Mali et le Niger, qui sont en guerre ouverte avec les djihadistes. Il y a aussi la situation en Libye. Donc autant de réalités qui aujourd'hui ne permettent pas forcément aux Burkinabés d'endiguer le mal.
Merci Gédéon. Jean-Pierre Bayala.
Allô
Jean-Pierre Bayala, vous entendez ?
Allô ? Oui, allô ? Oui, je vous reçois.
Oui. Alors, je voulais votre avis sur cette suggestion d'un ex-colonel de l'armée, le député de l'opposition Lona Charles Ouattara, ancien chef des opérations aériennes des Nations Unies, qui préconise le rapatriement des contingents burkinabés déployés dans les opérations de maintien de la paix sur plusieurs théâtres de conflit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion ?
Personnellement, je ne la partage pas. Je ne la partage pas parce qu'il a peut-être un glissement politique. Mais moi, dans ma démarche technique, je pense que dans cette lutte contre le terrorisme, il est évident qu'il faut de la collaboration, il faut de la coopération inter-État. À tel point d'ailleurs que le Conseil de sécurité est d'accord pour dire que à long terme, parce que la lutte contre le terrorisme ne saurait être à court ni à moyen terme, il faudrait une stratégie africaine
et internationale. Oui, à propos des stratégies africaines, Jean-Pierre Bayala, pendant ce temps-là, à quoi sert le G5 Sahel ? Quel peut être son concours pour contrer les menaces au Burkina Faso, par exemple ?
Si vous suivez l'évolution, vous verrez que pour le moment, elle n'est pas fortement opérationnelle. Et ce qui m'inquiète, moi, dans les dispositifs actuels, le déploiement de l'ensemble de ces forces dans la zone malienne, c'est qu'il manque une coordination du point de vue opérationnel. Et dès cet instant-là, vous avez un ensemble de forces sur un terrain contre le même ennemi. Il faut absolument coordonner les efforts. Il faut une stratégie de coordination, de coopération et qui permette la montée en efficacité, en efficience du système en place. Or, malheureusement, vous voyez que le G5 Sahel, ils sont même encore en train de rechercher l'ensemble des moyens nécessaires pour une période d'un an. Oui. Ben, vous pensez que le terrorisme est parti pour un an sur le sol africain, sur le sol burkinabé ? Je n'y crois pas. Il suffit de se renvoyer à l'émergence du terrorisme en 1794, après la Révolution française, pour savoir que le terrorisme a la vie dure et aussi vieille que les guerres.
Et que les États.
Et les États.
Liliane ?
Oui, je voulais demander à M. Bayala ce qu'il pense de l'implication présumée ou supposée de l'ancien pouvoir, c'est-à-dire celui de Blaise Compaoré, dans l'insécurité actuelle au Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kabore a évoqué cela.
Écoutez,
est-ce que vous avez des éléments qui confortent cette possibilité ?
On ne peut pas rejeter du revers de la main ce que le président de la République a dit. Vous savez dans quelles circonstances le pouvoir ancien a été déçu. Vous savez que ce n'est pas de gaieté de cœur que le pouvoir a été abandonné. Et naturellement, vous comprendrez pourquoi le premier responsable a pris la clé des champs et n'est pas resté dans son état.
Oui, mais là, vous parlez des présomptions. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des éléments probants qui établiraient une responsabilité de l'ancien pouvoir dans les attaques terroristes dans votre pays?
Tout le monde s'accorde en analyse. Mmh. Et personne, jusque-là, ne peut vous dire quels sont les éléments les éléments présents, c'est-à-dire les éléments qui puissent permettre une affirmation.
Si personne n'a ces éléments, y compris le président Rochmar Christian Kabore, pourquoi formuler ces accusations? Parce que cela pourrait donner l'impression que le gouvernement est un peu aux abois, il est dépassé et cherche les boucs émissaires à la situation.
Écoutez, moi je vais tout simplement vous reprendre les propos d'un homme politique qui dans une de ses interventions, il est de l'opposition, disait que, écoutez, si vous voulez la paix, faites le choix de mon parti. Et en 2020, vous aurez la paix et la sécurité. Comment vous pouvez interpréter ça, vous? Vous
Je
pensez que le terrorisme, là, c'est une action ponctuelle? Lorsque le terrorisme prend pied dans un État, rappelez-vous que les guerres naissent dans les esprits. Et il faut les combattre dans ces esprits, comme disait Rousseau. Mais le problème, quand on connaît la nature, les manifestations et l'enracinement d'un tel phénomène, qui puise dans des conditions économiques, dans des conditions de pauvreté, des conditions ethniques, etc., parce que les facteurs sont nombreux, comment vous pensez qu'on peut, d'un coup de baguette magique, mettre fin au terrorisme
Merci.
Tel qu'il se présente?
Merci beaucoup.
Personnellement, je ne pense pas. Mais si quelqu'un l'affirme, c'est que, quelque part, il connaît les raisons profondes, il connaît les acteurs. Rappelez-vous que lorsqu'on prend tous ces groupes-là, surtout celui de Agali, vous savez qu'il avait pion sur rue au Burkina.
Oui.
Que son aile armée ACMI allait combattre au Mali et venait opérer le repos du guerrier sur le sol burkinabé. Maintenant que leur hôte a été chassé du pays, évincé du pouvoir. Mais vous comprenez, vous ne voyez pas là qu'il y a déjà une réaction humaine.
Merci beaucoup.
Hein?
On va passer au prochain sujet.
On a bien
sujet.
Compris.
Voilà.
Merci beaucoup, monsieur Béabayala.
Le débat Africa BBC.
En duplex à Paris et à Dakar, notre grand témoin invité, Jean-Pierre Bayala, au téléphone depuis Ouagadougou, magistrat colonel à la retraite, spécialiste, on a bien compris, des questions sécuritaires. Notre confrère, invité depuis Cotonou, au téléphone, Gédéon Vegba, journaliste et analyste politique à l'ORTB, l'Office de radio et télévision du Bénin. On va justement parler du Bénin à présent avec vous, Liane.
Oui, Francis, le nouveau code électoral au Bénin fixe à 250 millions de francs CFA le montant de la caution pour être candidat à la présidentielle contre 15 millions de francs CFA que les candidats payaient jusque-là. Pour les uns, le pouvoir actuel veut tout simplement réserver cette fonction aux riches et les autres, par contre, pensent que la mesure permettra de réduire, à défaut d'éliminer, les risques de candidature fantaisiste. Le nouveau code électoral béninois fait polémique, Francis. Et je voudrais peut-être demander à notre confrère Gédéon, qui est au Bénin, est-ce que vous partagez l'analyse de ceux qui pensent que désormais, il faut être multimillionnaire pour pouvoir se présenter à une élection au Bénin, que ce soit pour les présidentielles, que ce soit aussi pour les législatives?
Pas du tout. Je pense que pour la démocratie, ce n'est pas une bonne chose du tout de fermer, d'encadrer ou d'empêcher, je vais dire, les candidatures. Il faut ouvrir les candidatures aux élections à tout le monde. et cela participerait même à la vitalité de la démocratie. Je pense que au Bénin, comme dans tous les autres pays du monde, ou dans tous les autres pays du continent africain, et plus précisément, c'est le problème du consensus qui fait que souvent il y a toujours des polémiques autour des lois électorales. Et on a souvent tendance à tailler des lois sur mesure, et lorsqu'on est aux affaires, on se rend compte que ce qu'on avait taillé sur mesure, qu'on fait les frais. Parlons des 250 millions. Pardon ?
Allez-y.
Non, allez-y, Gideon.
Oui, parlons des 250 millions de francs CFA qui sont fichés aujourd'hui. L'argumentaire, comme vous l'avez cité.
Pour la présidentielle, et je crois 239 pour les législatives.
49.
249, d'accord. Oui. Un million de différence.
Oui, c'est ça.
Allez-y, Gideon.
Donc, parlons des 250 millions de francs CFA qui sont fichés, je pense que l'argumentaire qui est développé par la majorité parlementaire, c'est de dire qu'on empêche les candidatures fantaisistes et qu'il faut aussi que le candidat contribue pour l'organisation des élections. Mais je trouve que cet argument n'est pas aussi convaincant, parce que quand on voit sous d'autres yeux, c'est vrai que nous n'avons pas forcément les mêmes moyens que les autres pays et les puissances, je veux dire, la France et les États-Unis, où pour aller aux élections, on n'a pas forcément besoin de déposer quoi que ce soit. Il suffit de recueillir des candidats et des signatures, et ça suffit déjà pour être candidat à la présidentielle. Et ici, on dit non que compte tenu de notre situation financière difficile, il faut forcément que le candidat contribue à quelque chose de la cagnotte. Mais est-ce que forcément c'est la bonne approche? Moi, je doute fort que ce ne soit pas la bonne approche.
On va demander à Jean-Pierre Béala. Jean-Pierre Béala, je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation, parce qu'on dit généralement, c'est un principe sacro-saint, que tout citoyen est à la fois électeur et éligible. On a l'impression que désormais, on dira au Bénin que ne sont éligibles que des citoyens fortunés.
Écoutez, vous savez, dans une loi, il y a la lettre et à l'esprit. Si nous nous attachons à l'esprit des libertés individuelles et collectives, c'est-à-dire des droits des uns et des autres, naturellement, il n'y a pas de raison d'empêcher quelqu'un, d'une manière que ce soit, à ne pas pouvoir se présenter dans son état pour un poste électif. Mais vous connaissez comme moi ce qui se passe en Afrique. Avant qu'on en arrive d'ailleurs au Gabon, vous savez que le dicton célèbre de feu Bernard Bongo, qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut pas être chef d'État, organiser des élections et les perdre.
Oui.
Cela veut dire que c'est des mesures anticipatives qui préparent déjà l'élu.
Oui.
Puisque ce ne sera pas forcément par les urnes, mais par la force, naturellement, du pouvoir en place. Oui. Et à cela, il faut se dire que réellement, au lieu de passer le temps à financer des élections, des candidats pour les campagnes, à mon avis, sans exiger ces cautions qui me paraissent quelque peu irréalistes, sauf si évidemment c'est véritablement discriminatoire, il faut absolument laisser chacun aller avec ses propres moyens, quitte à ce que l'on puisse rembourser le tout ou partie des dépenses véritablement engagées et qui sont justifiées par des dépenses qui sont avérées.
Même remboursable, ça reste quand même des sommes.
En réalité, cette loi est quelque peu discriminatoire et s'écarte de l'égalité des citoyens.
Loi discriminatoire, dites-vous, Jean-Pierre Béala. Gédéon Weba, on va aller plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'incitation à la délinquance financière? Parce que combien de citoyens désirant être députés ou présidents sont en mesure de réunir en toute transparence de telles sommes sans que leur fortune soit suspecte?
Je veux faire une précision. Je pense que le code électoral voté il n'y a pas longtemps s'aligne sur la charte des partis politiques voter aussi dans la même période.
Oui.
Et la charte des partis politiques exige désormais que ce soit une alliance de partis politiques ou partis politiques en bonne et due forme, je veux dire, qui aille aux élections.
D'accord.
Donc il n'est plus question de candidature indépendante. Vous devez aller aux élections à partir d'une liste de partis politiques.
Oui, mais quand même.
Donc c'est le parti politique maintenant qui cotise pour la candidature de son candidat.
Un président donc, en général, enfin, on sait très bien qu'un candidat à la présidentielle est un homme qui avance seul, même s'il a un parti derrière lui, il faut qu'il en ait le moyen d'aller à une campagne électorale.
Absolument, absolument. Donc ici, il est recommandé maintenant que tous les candidats aillent se faire porter par un parti politique et que les membres du parti politique cotisent pour sa candidature. Ce qui, en Afrique, plus précisément au Bénin, n'est pas, oui, n'est pas réaliste, comme l'a dit Jean-Pierre Bala et M. Bayala. Oui. Est-ce que on a déjà le sens, la culture de cotisation au sein des partis politiques, là est la question.
Mmh, bien sûr. Mais
pour la présidentielle de 2016, Gideon, on avait assisté à une flambée de candidature, il y avait quand même 33 candidats en lice. Est-ce que vous pensez qu'avec le nouveau code électoral qui va entrer en vigueur, j'imagine, pour les prochaines élections législatives, puis les présidentielles 2021, tout cela peut contribuer à réduire le nombre de candidats, c'est-à-dire à lutter contre l'inflation de candidatures?
C'est d'une évidence que ça va empêcher les candidatures fantaisistes. Mais moi, je pense que pour la démocratie, il faut laisser le jeu se faire, parce que seul le peuple a le dernier mot, c'est le peuple qui décide qui sera élu ou pas. Donc, dire que forcément qu'il faut trouver des parades pour empêcher que les gens aillent aux élections, parce que comme vous l'avez dit, il y a 33 candidatures en 2016, et il a fallu que chacun débourse 15 millions. Et je pense que 15 millions, c'est
pas... Même le président Talon a déposé 15 millions. Avait déposé 15 millions. Oui, tous les candidats, dont lui.
Chaque candidat avait déposé 15 millions pour les élections de 2016. Donc, et ce n'est pas le citoyen lambda qui va trouver 15 millions. Donc, c'est les gens qui ont les moyens, qui forcément veulent se faire voir ou se faire une renommée, dit que j'ai été candidat à une élection présidentielle, qui forcément vont à ce jeu-là. Donc, il faut laisser le jeu se faire, que les gens qui ont les moyens fassent le s'amusent, comme on le dit, et que le peuple décide après.
Autre chose, Gédéon, certains soutiennent que le nouveau code électoral est un indice que le président Talon sera candidat à sa propre succession en 2021 et que la question du mandat unique est définitivement oublié.
Alors moi, je ne sais pas lire dans un mar... comme... je sais pas lire dans un mar de café, donc je ne peux pas dire que forcément...
Le fait de gonfler le montant des cautions visait simplement à éliminer des adversaires pour lui faire une sorte de boulevard en 2021. Moins il y a de candidats, plus...
Non, pas du tout.
Oui. C'est ce que disent les profondeurs de ce coup.
La loi actuelle de la Constitution, je veux dire, du Bénin, le président Patrice Talon peut être candidat, parce qu'il est autorisé à aller une fois encore.
Mais c'est lui qui parlait de mandat unique.
À la présidentielle, à être candidat une fois de plus. Donc c'est une fois renouvelable. Donc il est un potentiel candidat, comme on peut le dire, mais il n'y a pas d'indice probant pour dire qu'il est d'abord déjà candidat.
D'accord. Francis?
Non, mais en plus d'épuiser la question des cautions, parce qu'on retient quand même, Gédéon Véma, que voilà, aujourd'hui, on assiste à une sélection par l'argent, quoi, des candidats, ce qui exclut évidemment tous les Béninois de grands talents qui pourraient évidemment servir leur pays, mais qui n'auraient pas les moyens d'aller à une élection présidentielle.
Et à ce sujet, Francis, j'avais une question, je souhaite la poser pour terminer à M. Jean-Pierre Bayala, notre invité. M. Bayala, quelle est, d'après vous, la garantie que le candidat qui a les moyens de payer une telle caution, que ce soit pour la présidentielle ou législative, a également les qualités, les valeurs morales pouvant faire de lui un gestionnaire intègre une fois élu?
Ben, pour moi, la condition essentielle telle que la loi le prescrit, c'est qu'il faut être riche, il faut avoir l'argent nécessaire. Mais maintenant, comment l'argent est-il obtenu? Comment le candidat va-t-il recouvrer, j'allais dire, sa mise? C'est une question de moralité qui va se poser.
C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, M. Bayala, sur le risque d'incitation à une forme de délinquance financière.
Ben absolument, je suis tout à fait d'accord. Nous avons vu en Afrique des gens qui sont arrivés pratiquement au pouvoir à pied, qui peu de temps après étaient capables de s'acheter leurs propres avions.
D'accord, mais au-delà de cela, l'aspect financier peut-elle garantir, est-ce que avoir de l'argent garantit la moralité de la personne qui va être élue par rapport à la bonne gestion des biens publics qui lui seront confiés?
Je ne voudrais pas choquer ceux qui ont de l'argent, mais allez vérifier combien l'ont acquis de façon honnête. c'est la vraie question. Et ça pose en même temps le fond de cette moralité qui doit exister. Et un chef d'État...
On privilégie l'argent, selon vous, au détriment des valeurs morales?
Il ne faut pas mettre l'argent au centre des valeurs morales. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, dit-on.
D'accord. Merci.
C'est une belle conclusion. Sans transition, on va parler aussi d'argent, pour le Gabon en tout cas. Là aussi, on assiste à la fin de la gratuité des procédures de recours en contentieux auprès de la Cour constitutionnelle. C'est toujours dans le cadre des élections. Et voilà, donc à la veille des élections législatives et locales qui sont prévues au 6 octobre prochain, la Cour constitutionnelle du Gabon annonce que les procédures en matière électorale seront désormais payantes. En clair, contrairement aux dispositions légales qui stipulent que les procédures devant la Cour constitutionnelle sont gratuites, écrites et contradictoires, les recours en contentieux, les plaintes, le contrôle de la régularité des candidatures et autres contestations en matière électorale seront désormais payants. À titre d'exemple, les tarifs varient pour chaque requête de 100 000 francs CFA, point contentieux des candidatures, à 5 millions de francs CFA pour les contentieux de l'élection présidentielle, de l'élection du président de la République. Alors, des dispositions qui sont vivement critiquées par l'opposition qui dénonce, une sélection des élus par l'argent, alors même que l'on estime dans le camp du pouvoir que ces nouvelles mesures contribuent à mettre fin au recours fantaisiste auprès de la Cour constitutionnelle. Jean-Pierre Bayala, on voit bien qu'il y a un lien entre les deux sujets, mais avant cela, avant de vous poser une première question, on va écouter un élément sonore avec vous, Liliane, à Dakar, BBC.
Oui, Francis, il faudra donc débloquer, vous l'avez dit, 5 millions de francs CFA pour une requête relative à la présidentielle et 500 000 francs CFA pour les législatives et les locales. Précision à Libreville du correspondant de BBC Afrique, Charles-Stéphane Mavungu.
Alors que les plaintes abondent, la présidente de cette institution surprend l'opinion en décidant de faire payer les prestations de médiateur du collège de juges qu'elle préside. L'opposition, par la voix de Richard Moulomba Mombo, président de l'Alliance pour la Renaissance Nationale, dénonce une sélection des élus par l'argent.
Nous nous demandons quel type de dossier demande 5 millions de francs CFA pour les législatives, 500 000, c'est-à-dire autant que la caution elle-même. Et pour les locales, autant. Il y a la dissuasion qui est là, mais il y a surtout la sélection par l'argent.
Le scrutin s'annonce déterminant pour le régime au pouvoir qui souhaite maintenir sa majorité dans les deux chambres du Parlement et dans les conseils municipaux. Dans les rangs des partis alliés au président gabonais Ali Bongo Ondimba, le secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien, Guy Christian Mavioga, estime que la décision de la Cour constitutionnelle mettra fin au recours fantaisiste.
Nous pensons naturellement que pour éviter qu'il y ait des recours fantaisistes, ça ne nous gêne pas dans la mesure où nous pensons que nous sommes avisés à temps.
Libreville, Charles-Stéphane Mavungu, BBC Afrique.
Merci beaucoup.
Allez-y, Francis.
Jean-Pierre, ben là, on voit bien, voilà, avec ces mesures, seuls pourront recourir à la justice les personnes disposant des moyens financiers nécessaires. Alors, évidemment, certains critiques pensent que les plaignants et autres requérants par l'argent, évidemment, seraient de toute manière exclus, je dirais, du principe d'égalité des citoyens face aux institutions, surtout quand il s'agit de contentieux électoraux. Qu'en pensez-vous?
Je pense, surtout pour le magistrat que je suis par ailleurs, je crois qu'on nie à tous les citoyens l'accès à la justice, on nie à tous les citoyens l'exercice de leurs droits fondamentaux. Il appartient au juge qui sera saisi d'apprécier le fondement ou non de la requête qu'il reçoit. Pourquoi alors il faudrait légiférer pour mettre fin à cela? Et c'est véritablement une entorse à l'exercice des droits individuels et collectifs des uns et des autres. Et quand on ramène tout à l'argent, vous comprenez que c'est vraiment le vice cultivé à mon avis. Or on sait de quoi l'homme politique est capable. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut faire en sorte que ceux qui n'ont pas l'argent n'émergent pas en termes de leadership.
Donc, tout cela, vous dites que tout cela est un peu dangereux pour la démocratie.
C'est même très dangereux pour la démocratie. Parce que lorsqu'on dit que la démocratie, c'est l'exercice du pouvoir par le peuple et pour le peuple, ça ne veut pas dire qu'on a amené tous les citoyens dans les plus hautes écoles. Parce que l'intelligence ne s'attire pas dans les écoles. On est avec. À partir de ce moment-là, le paysan, et vous prenez d'ailleurs dans la haute technologie, la science, vous verrez que beaucoup de ceux qui ont fait des inventions n'ont pas été dans les universités.
Mais excusez-moi, Monsieur Bayala, en même temps, je rebondis à ce que vous venez de dire, en même temps, est-ce qu'il ne peut pas, est-ce que ne serait pas intéressant d'exiger un minimum de niveau d'études pour être candidat à la députation? On insiste sur l'argent, mais pas sur le niveau d'études. Or, ces députés sont parfois appelés à voter des lois qu'ils ont du mal à maîtriser. Ces élus locaux qui deviennent pour certains maires ont du mal à comprendre comment préparer un budget, comment l'exécuter, comment gérer tout cela?
Écoutez, je crois que cette déviance-là part du fait que nous ayons abandonné nos propres langues. On aurait appris à chaque citoyen à écrire dans sa langue, hein, ou alors prendre une langue nationale accessible à tous au sein d'un pays pour que l'on n'arrive pas à certaines absurdités.
Oui.
Bon,
aujourd'hui,
pas le cas.
Nous avons affaire à des langues importées, hein, et qui vont s'imposer. Vous prenez par exemple le principe de droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Dans mon pays, si je prends le cas, nous avons près de 65 langues au niveau ethnique. Bon, les lois sont simplement diffusées, promulguées en français. Vous pouvez opposer ça aux paysans qui est dans son champ et qui ne sait pas que dire bonjour en langue étrangère.
Merci beaucoup. On va revenir au sujet.
On va demander à Gédéon Weber rapidement. Gédéon Weber, alors qu'est-ce que vous pensez de la fin de la gratuité des recours auprès de la Cour constitutionnelle, service public hein, par excellence?
Allô? Je pense que, comme l'a dit M. Bayala, je pense que c'est un peu dangereux pour la démocratie, mais en même temps, je peux comprendre quelque part le défendre de cette décision, parce que parfois on assiste en Afrique à des recours fantaisistes, alors qu'il n'y a pas forcément matière à recours, on fait toujours des recours. Et puis l'autre chose, la problématique...
Je signale quand même que pour contester l'élection présidentielle, il faut débourser 5 millions de francs CFA hein, dans ce contexte.
Hein. Non, c'est pour ça qu'il y a l'entame, que je trouve que c'est dangereux pour la démocratie, il ne faut pas empêcher les gens de faire des recours. Mais cependant, il faut comprendre aussi qu'il y a des recours fantaisistes, et quand vous voyez dans l'ensemble des pays africains, on a une insuffisance de personnel judiciaire pour traiter de ces questions, hein, les manques de greffiers, de magistrats et autres, et puis le volume de recours est très impressionnant. Et c'est sur des mois et des mois qu'on essaye de liquider ces dossiers, et ce qui parfois n'est pas aussi facile.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi des motivations financières au regard de la situation difficile que traverse le Gabon? Est-ce que c'est une décision uniquement politique?
Non, mais je comprends quand même pour votre raisonnement, Gédéon Weber, que ces fonctionnaires dont vous parlez qui croulent sous les recours sont par ailleurs des salariés de l'État. Ils sont quand même payés pour.
C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais il faut dire le volume des recours est souvent très impressionnant et ça empêche les gens de liquider les dossiers le plus rapidement
mais
possible.
Mais dans ce cas-là, le volume est impressionnant. Est-ce que le fait de faire payer maintenant pour étudier ces requêtes-là va contribuer à renflouer les caisses de la Cour constitutionnelle et de l'État?
Donc, non, si on suit votre raisonnement, c'est une manière d'empêcher que les gens fassent assez de recours. C'est une manière. Cependant, je ne suis pas d'accord avec les montants fixés. C'est assez impressionnant. On parle de 5 millions, de 100 000 à 5 millions, je pense. Hein. Et c'est beau. Et on peut fixer des montants plus raisonnables. C'est assez fabuleux.
Merci beaucoup. Le moment est venu d'écouter les messages de nos auditeurs sur Internet. Message recueilli et livré à présent par Sandra Bassabam.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat_bbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débat_bbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici une sélection des réactions recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sur le Burkina Faso, Mephis Kiti pense que la recrudescence des attaques dans le pays est due à une mauvaise politique de sécurisation. Notre fidèle auditeur se demande d'ailleurs si le président Roch Christian Kabore est soucieux du bien-être de la population de son pays et conclut que le président et son gouvernement sont passés à côté de l'objectif principal qui est d'assurer la sécurité du peuple burkinabé. Sur le Bénin, Maramadou Sanogo depuis le Mali demande à l'invité si l'augmentation de la caution pour une candidature à la présidentielle est une décision légitime ou c'est plutôt un moyen de freiner les candidatures de potentiels rivaux. Enfin sur le Gabon, Harold Zao juge que les élections en Afrique ont toujours été fraudées par ceux qui sont au pouvoir. Par conséquent, la tarification des recours dénote de la non-transparence des scrutins qui s'organisent sur le continent. Merci à Arsène Bumba qui nous a rejoint. Merci à tous. Merci de continuer à nous suivre sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci Sandra Bassabam. Liliane, on va demander à notre grand témoin de nous faire part de sa conclusion.
Oui, conclusion générale, Monsieur Bayala, en répondant peut-être à l'une des questions de nos auditeurs.
Je crois que d'abord, en ce qui concerne le Burkina, il faut dire que aucun gouvernement, qu'il soit là ou qu'il soit à venir, ne pourra faire des miracles. Si l'on ne prend pas des décisions, si on n'a pas une volonté politique forte pour opérer des réformes profondes à travers justement le vécu du Burkina lui-même. D'abord la révolution qui a naturellement sapé la base de discipline de sécurité. Ensuite, vous avez le long règne. Dans tous les États où il y a eu ce long règne, qui avait un caractère dictatorial, prenez la RDC, prenez ce qui s'est passé au Burkina et j'en passe, vous verrez que le socle démocratique, il était purement fictif, puisque vous savez que la conférence de la Bolle a amené les États, par hypocrisie, à passer au multipartisme, en créant du reste d'ailleurs des partis satellitaires. Donc ça n'a rien changé.
30 secondes pour terminer.
Bon, maintenant, en ce qui concerne le commentaire sur le Gabon, c'est-à-dire... les différents recours dont il est question, il faut savoir que, de mon point de vue, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de recours. D'ailleurs, même plus il y en a, à mon avis, mieux ça vaut, parce que ça oblige les structures chargées des élections à ce que la transparence soit la règle.
À améliorer l'organisation.
Merci. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Pierre Bayala, magistrat colonel à la retraite. Vous êtes notre grand témoin dans cette édition des débats BBC Afrique, Africa numéro 1, Paris. Et merci à vous, Gédéon Vegba. Vous étiez avec nous depuis Cotonou, journaliste et analyste politique à l'ORTB, l'Office de radio et télévision du Bénin. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par François Richard, chargé de production cette semaine, Sandra Bassabam. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition Débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Et je vais pouvoir dire à la fin de cette émission, bonnes vacances à vous Liliane, puisque vous ne serez pas là vendredi prochain. C'est votre tour de partir en vacances, je ne sais pas où d'ailleurs.
C'est vous qui m'envoyez en vacances, monsieur Laloupo. J'avais l'intention de rester, mais bon, vous me forcez à aller en vacances, j'accepte.
Oui.
Et je vous souhaite bonne émission avec
nos auditeurs. Et je promets une chronique hebdomadaire de vos vacances à nos amis, à nos auditeurs et auditrices. Bonnes vacances à vous Liliane.
Au revoir Francis, au revoir à tous.
Au revoir.